Conclusion. Quand on veut caractériser la pensée française dans son rapport à l'empirisme britannique ou au romantisme germanique, c'est un lieu commun de dire qu'elle est essentiellement logicienne. Et Dieu sait quelle partie on a tiré de là pour rétrécir l'horizon et contester la profondeur de notre esprit classique. Il convient pourtant d'écarter tout malentendu sur la portée de l'expression. Si le logique ne signifie rien d'autre qu'une tendance, soit à ne pas se contenter de l'enregistrement pur et simple des faits, soit à se mettre en garde contre les facilités de l'imagination métaphysique, peut-être serait-il en effet plus marqué dans notre littérature philosophique. Mais bien souvent, on glisse de ce sens à un autre, au culte du formalisme logique qui se perd dans l'abstrait et dans l'irréel. Or, un premier point nous semble acquis par l'étude comparée de Montaigne, de Descartes et de Pascal, et qui retentit profondément sur notre civilisation d'Occident. Aussi différents qu'ils soient par ailleurs, ils sont tous trois d'accord pour dénoncer l'héritage de la scolastique. Ils nous voient dans l'emploi systématique de la déduction qu'une machine à cultiver la pétition de principe. Leur souci constant sera d'arracher l'homme au vain prestige d'une discipline formelle pour le maintenir au contact immédiat des questions qui concernent sa place dans le monde et le sens de sa destinée. C'est ce qui rend si émouvante et décisive la rencontre, durant le siècle où l'esprit français parvient à dégager sa personnalité, d'œuvres tellement diverses, mais également inépuisables dans leur puissance de suggestion. Je doute, je sais, je crois. À aucune époque, et dans aucun pays, ces mots, qui expriment les attitudes fondamentales de la pensée, n'ont eu plus de densité en eux-mêmes, plus de résonance lointaine que prononcée par un Montaigne, par un Descartes, par un Pascal. En parlant ainsi, nous ne voulons pas laisser entendre que la philosophie française se soit condamnée à demeurer enfermée dans le cadre tracé par cette triple origine. On voit trop bien quelles influences étrangères se sont exercées sur les écrivains les plus représentatifs de l'esprit national. Ce que Montesquieu et Voltaire ont dû à Locke, Louis de Bonald et Joseph de Maistre à Burke. Sans l'ascendant de Rousseau, ni Robespierre, ni Chateaubriand ne s'expliqueraient tout à fait. Cousin, Proudhon, Hamelin ont, l'un après l'autre, cédé à la fascination de la dialectique hegelienne. Ravaisson se réclamait de Schelling. Comme Renouvier et Jules Lachelier déclareront procéder de la critique kantienne. Nous écarterons même la notion d'influence qui suppose des analyses minutieuses pour nous borner à dessiner en grandes lignes de larges courants de pensée. À cet égard, le tableau que présente la seconde moitié du XVIIe siècle est très net. Le reflux pascalien y est suivi d'une recrudescence du flux cartésien, qui se partage lui-même entre deux directions répondant aux deux aspects du rationalisme chez Descartes. Malebranche et Fénelon s'inspirent de la spiritualité des méditations pour renouveler la métaphysique du christianisme, tandis qu'avec Bayle et Fontenelle, l'examen méthodique aboutit à une profession de véritable positivisme. La polémique sans merci que le grand Arnold a soutenue contre le traité de la nature et de la grâce souligne assez l'antipascalisme de son auteur. Ce n'est pas que chez Malebranche la conscience du péché soit moins vive et moins poignante, moins étroite la liaison du salut à la présence sensible du verbe incarné. Certains contemporains ont même accusé Malebranche d'une secrète affinité pour le jansénisme. Une différence capitale subsiste cependant. Le drame provoqué par la chute d'Adam qui pervertit l'ordre des rapports de perfection et dénoué par le sacrifice de Jésus qui le restaure, se détache sur un arrière-front de spéculation que Malebranche appuie expressément au caractère original de la mathématique cartésienne. L'entière intellectualité de l'étendue que rend évidente la réduction de la géométrie à l'algèbre assure la participation de l'infini divin à tous ceux qui sont capables de rentrer en eux-mêmes et d'y contempler l'ordre des rapports de grandeur. Ainsi pour tous, pour ces Turcs dont Descartes souhaitait que sa philosophie pût être reçue, pour les Chinois, pour les impies même et pour les démons, le verbe « incréé » se manifeste dans son universalité. Malebranche n'accepte pas que la dualité des formes du verbe, qui constitue le propre du mystère chrétien, aille contrevenir à la vérité première de la subordination de l'historique et du provisoire à l'intrinsèque et à l'éternel. La foi passera, née pour le service de l'intelligence qui demeure. Ce mouvement, qui tendrait à effacer le fidéisme de saint Paul devant le rationalisme de saint Jean, s'accentue encore avec Fénelon ou, pour préciser, avec la partie de son œuvre où il s'efforce de justifier l'expérience mystique de Madame Guyon. Il importe à ce propos de prendre garde que les mots ne trahissent pas leur intention, dans la mesure où l'on conservera au mysticisme l'ambition, qui paraît avoir toujours été la sienne, de réussir dès ici-bas la fusion de l'âme dans l'essence indivisible de Dieu, la religion de Port-Royal est aux antipodes du mysticisme. Pas de tentation et pas d'illusion plus dangereuse que de prétendre échapper à la loi de la grâce pour anticiper le triomphe de la gloire. Aussi bien, le mémorial où Pascal évoque la vision de feu durant la nuit du 23 novembre 1654 se terminait-il par ces mots qui suffiraient à dissiper l'équivoque? Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Si traversée qu'elle puisse être par les doutes, les sécheresses et les angoisses, il n'y a pas de vie mystique qui n'ait connu les périodes d'extase où il semble qu'entre l'âme de l'homme et la réalité de Dieu, toute distance soit abolie. La joie ineffable de l'unité par-delà l'exercice implique donc ce qu'à aucun prix Pascal ne saurait concéder, une désappropriation réciproque de la créature et du créateur. Il ne sera plus question que nous nous haïssions, car ce serait encore penser à nous, et nous nous sommes dépouillés du moindre intérêt pour notre personne. Nous goûtons désormais le repos en un Dieu qui lui-même s'est affranchi de toute psychologie et de toute histoire. Un Dieu dont Fénelon dira qu'il ne peut se trouver que dans l'universalité de l'être, qui est l'être infiniment parfait en tout genre et infiniment simple. L'intuition de présence conduit à une doctrine de radicale intériorité. Cette intuition sert chez Descartes à chasser le doute hyperbolique qui surgit de l'intervention d'un malin génie. Il y a lieu de se demander si chez Fénelon, elle n'a pas un effet semblable, si elle ne risque pas de rendre inutile l'avènement du médiateur évangélique. Bossuet s'alarme. Après avoir témoigné publiquement de son mépris pour la philosophie de Malebranche, il attaque ce même Fénelon qu'il avait d'abord chargé de réfuter le système de Malebranche. À la querelle du jansénisme, à la querelle du rationalisme, s'ajoute la querelle du quiétisme, non moins envenimée, non moins funeste pour la paix de l'Église. On se rappelle que Pascal, Malebranche, Fénelon, Bossuet lui-même étaient des augustiniens, et l'on songe aux paroles qu'Augustin Courneau prononçait à une séance de rentrée de l'enseignement supérieur le 17 novembre 1859. S'il m'était permis de détourner à un sens profane le mot de mon grand patron, je dirais aux personnes chargées de ce haut enseignement « Aimez la vérité et faites ce que vous voudrez. » Aimez la vérité non de cet amour vulgaire qui fait seulement qu'on évite le mensonge, mais de cet amour délicat et désintéressé qui sacrifie tout ce qui pourrait faire valoir le talent du peintre aux dépens de l'exactitude du portrait, qui renonce à un trait brillant mais hasardé, à un rapprochement piquant mais douteux, à une formule séduisante mais contestable. Pourquoi les hommes, dont le génie a été l'honneur de l'Église de France, n'ont-ils pas su pratiquer les uns à l'égard des autres le respect de leur amour commun pour la vérité vraie? Si un Pascal, un Malebranche, un Fénelon furent menacés tour à tour d'être rejetés aux confins de l'hérésie, s'il a paru tâche bénie de travailler afin de leur arracher le désaveu de ce qui constitue la profondeur et l'originalité de leur œuvre, que reste-t-il à la pensée chrétienne pour éloigner le péril d'être coupé de ses sources vives, vouées à la paralysie? Bossuet répond. La lettre de l'écriture est la discipline de l'autorité. Or, sa carrière démontre que ce fut là l'occasion d'un double et inextricable embarras. Il aurait fallu que le débat fût tranché entre la tradition des pères et la probité critique dont Richard Simon fera la preuve à ses dépens. Il aurait fallu aussi que fût aplani le conflit politique qui met en regard les libertés de l'Église gallicane et la suprématie du pontificat romain. En condamnant toute méditation métaphysique parce qu'il y voyait se profiler le spectre d'une sorte de supra-christianisme qui serait au Nouveau Testament ce que le Nouveau est à l'Ancien, Bossuet a ramené au point mort la contribution de l'œuvre cartésienne au réveil de la pensée religieuse. Et par là, il décidait la destination spirituelle du XVIIIe siècle. En fait, lorsqu'un observateur pénétrant, un moraliste rigoureux, dresse le bilan du catholicisme pour l'époque et dans la nation où il a inspiré le plus de talent et le plus de vertus, il aboutit à un résultat d'ordre négatif. Pierre Bayle rejoint ainsi la position qui était celle de Montaigne après la réforme protestante. Lui aussi y participe à toutes les curiosités et à tous les scrupules de ses contemporains. Ayant traversé les deux confessions de l'Occident chrétien, édifié par l'ascétisme de Pascal, séduit par le système de Malebranche, il défend contre les violences qui se multiplient de part et d'autre la cause sainte de la liberté de conscience. Réfractaire par tempérament aux formes variées du dogmatisme, on ne peut affirmer qu'il ait professé le manichéisme. Cependant, si Dieu était unique, comment s'expliquer le spectacle de l'histoire où le Tout-Puissant apparaît si fort pour le mal et si faible pour le bien? Dieu est-il bon? Dieu est-il méchant? Ou plutôt, Dieu est-il deux, comme il arrive dans les cosmogonies et théogonies qui racontent les luttes sans fin des puissances surnaturelles et dont les croyances populaires gardent si profondément l'empreinte? Le dictionnaire de Bayle insiste sur ces problèmes. Son érudition prodigieuse servira le positivisme scientifique de Fontenelle, qui lui-même prépare le succès et annonce l'ascendant de l'encyclopédie. Fontenelle se déclare cartésien. Si à son exemple poursuivait le dialogue des morts, on dirait qu'il se propose d'attirer dans le camp rationaliste ce même Montaigne que Pascal avait cherché à tourner contre Descartes. Fontenelle avait eu connaissance des pages encore inédites que Pascal destinait à la préface de son traité du vide. Dans la digression sur les anciens et les modernes, il reproduit textuellement ce qu'Auguste Comte appellera l'aphorisme de Pascal. Le progrès qui résulte nécessairement de l'addition des expériences dans la suite des temps permet de considérer l'humanité tout entière comme un unique individu passant des imaginations inconsistantes de l'enfance à la maturité de jugement que l'âge apporte avec lui. Seulement, Pascal restreint la loi du progrès au domaine de la science naturelle. C'est l'enseignement de l'Évangile, Matthieu 18:3, que la sagesse nous envoie à l'enfance. L'Antiquité découvre les sources de la foi et fixe la règle des mœurs. Fontenelle ne consent pas à ce renversement du sens de la preuve qui romprait l'unité de méthode. Il se tourne vers l'histoire pour lui demander de nous libérer du passé. Si Pascal avait fait allusion au foisonnement des religions, c'était afin de mettre la sienne hors de pair. Sur ce que la religion chrétienne n'est pas unique, tant s'en faut que ce soit une raison qui fasse croire qu'elle n'est pas la véritable, qu'au contraire, c'est ce qui fait voir qu'elle l'est. Vainement, on dit que la Chine obscurcit. De même, la sainteté de Moïse ressort de l'imposture de Mahomet. En revanche, quand Fontenelle compose le traité sur l'origine des fables, qui lui assure la gloire d'avoir jeté les bases de l'anthropologie moderne, en nous apprenant à éclairer les unes par les autres légendes anciennes et données ethnographiques, il ne laisse pressentir aucune exception. Les oracles païens n'ont pas le monopole de ce qui a été déjà raillé dans les essais, le parler obscur, ambigu et fantastique du jargon prophétique. Et dès le moment où l'on s'est prononcé contre les miracles de Vespasien, on cesse en réalité d'être pour les miracles de Jésus. Chez Fontenelle, cependant, l'ironie sympathique qui préside à l'examen des fondements de la croyance a une contrepartie que ni Montaigne ni Bayle n'ont connue. La confiance pleine dans la valeur et la vertu de l'entreprise scientifique. Peut-être même en a-t-il outrepassé les bornes légitimes lorsque, dans sa géométrie de l'infini, et sans d'ailleurs en soupçonner la gravité, il aborde les paradoxes de la future théorie des ensembles. En tout cas, les entretiens sur la pluralité des mondes donnent à la raison la possession paisible des horizons astronomiques qu'avait ouvert le génie de Copernic et de Galilée, où Pascal, cependant, n'avait trouvé que cause d'accablement et d'effroi. Détaché de la lettre du système, séparé aussi des principes de la métaphysique, l'esprit cartésien domine le XVIIIe siècle français, non seulement par le souci d'applications techniques et bienfaisantes qui inspirent l'encyclopédie, mais par la réflexion sur la méthode qui amène Condillac à en dégager le caractère essentiel. Si Condillac souligne le primat de l'analyse, il n'entend nullement par là négliger ou rabaisser la synthèse, bien au contraire. Mais il distingue deux sortes de synthèses. L'une qui prétend nous dispenser de l'analyse et, faute de point d'appui, s'évanouit en quelque sorte dans l'arbitraire de ses pétitions. L'autre qui doit à la régularité d'un processus préalable de décomposition la certitude d'une composition au retour exacte et féconde. Aussi, pour apprécier toute la grandeur de cette logique de l'analyse, conviendrait-il de laisser de côté les formules schématiques, les artifices verbaux du traité des sensations. Il faudrait songer à la mécanique analytique de Lagrange, extension délibérée de la géométrie analytique. Il faudra songer surtout aux plus belles créations du génie français, et qui sont des créations presque au sens absolu du mot. La chimie de Lavoisier, la biologie de Lamarck, la théorie de la chaleur de Joseph Fournier, titre d'honneur impérissable, est lié chez tous trois à une profonde méditation de ce que la science peut attendre d'une pratique méthodiquement suivie de l'analyse.